les films que j'ai faits, je les ai faits contre des problèmes que j'ai eus dans mon enfance. J'étais très, très, très timide. J'étais nul en gym. J'ai choisi beaucoup de films qui demandent des efforts physiques épouvantables. Je me suis imposé des contraintes que peut-être je refuserais dans la vie. Et c'était comme une victoire sur moi-même. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'à chaque film, je faisais des progrès et que j'apprenais les choses. Et le fait d'apprendre, de s'enrichir, c'était une stimulation supplémentaire pour continuer.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Il aime passionnément le cinéma. Il fait du cinéma et il le transmet, doté d'une mémoire sans faille. Bertrand Tavernier traverse les genres et les époques. À suivre son œuvre pas à pas depuis l'Horloger de Saint-Paul, on croirait qu'il s'amuse à découvrir ce qu'il ne connaît pas encore. Film policier, film en costume, comédie sur le pouvoir. Ce Lyonnais d'origine aborde le cinéma en grand enfant qu'il est toujours un peu, sans doute, se régalant, s'émerveillant d'exercer le même métier qu'un Renoir, un Houston, un Sauté. Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour.
Le cinéma, c'est fait pour se dépasser?
Oui, bah pour moi, oui. Oui, oui. C'est fait pour se dépasser, pour faire, en effet. Moi, si on m'avait dit que... quand j'étais au collège et que j'arrivais même pas à grimper à la corde, si on m'avait dit que j'allais me retrouver au sommet d'un donjon, que j'allais devoir crapahuter dans les collines de Roumanie dans Capitaine Conan ou dans La Princesse de Montpensier, dans des extérieurs qui étaient assez rudes.
Vous auriez ricané.
Oh, j'aurais dit que j'étais pas capable. J'ai un vertige épouvantable. Voilà. Et à chaque fois, j'ai fait des films très souvent dans des endroits très élevés. dans La Fille de D'Artagnan, parce que Claude Riche avait peur de courir sur une, on était au sommet de la, d'une basilique, d'une cathédrale, et je voulais qu'il se batte en duel, là. Et il m'a dit, je peux pas, le vide. 80 mètres, c'est complètement à pic, il y a une toute petite balustrade, j'y reviens. Je lui ai dit, mais Claude, moi aussi j'ai un vertige énorme, je vais courir autour. Si je cours autour, vous voyez que je peux le faire, donc vous le faites.
C'est formidable.
J'ai couru, mais normalement, j'en étais pas capable, parce que je mourrais de peur autour.
C'est ce qui s'appelle se dépasser, se surpasser.
Oui, c'est se dépasser, c'est surpasser, puis après, on a les jambes qui tremblent un peu, mais on est content de l'avoir fait.
Bon, ben on est content, nous, de parler de cinéma, de littérature, de musique, de recevoir un jeune comédien aussi, Raphaël Personnaz, dans un petit instant, mais l'habitude prise dans le Grand Atelier, c'est de commencer en musique, alors on va suivre cette habitude. On a choisi pour commencer une Australienne de Melbourne, qui est auteur, compositeur, interprète, elle s'appelle Courtney Barnett, c'est aussi une guitariste, et on l'aime bien, Courtney Barnett, à France Inter. Comment vous travaillez, Bertrand Tavernier ? D'abord, est-ce que vous travaillez chez vous ?
Oui, je travaille en ce moment beaucoup chez moi. Regardez, je vais être dans mon bureau. Ben, c'est d'abord un désordre épouvantable. ma femme, elle l'a rangé. Hein. C'était beaucoup plus... Vous voyez, ça c'est...
Vous autorisez votre femme à ranger ?
Oui,
c'est nécessaire.
Pas mon bureau, elle ne peut pas toucher. Mais regardez tout ça.
Il y a des livres.
Oui.
Il y a des DVD, il y a des CD.
Oui, il y a Histoire de détective et Young Man with a Horn que j'ai revu récemment. Il y a quelque chose que je dois vérifier sur Jean Genet, Alternative Bien-être, qui est une revue auquel je suis abonné, que je suis là, Guérir du diabète 2. D'ailleurs, je suis toujours en rapport avec mon ami Bertrand Burgala, qui a écrit un très très beau livre sur le très bon livre, très caustique. Et que la ministre de la Santé ferait bien de parcourir.
Sur le diabète.
Sur le diabète. Et ça s'appelle Diabétiquement Vôtre, c'est formidable, hein, le livre de Bertrand. C'est formidable, ça. Donc voilà, il y a tout, puis il y a mon ordinateur. Regardez, il y a 50 ans de cinéma. Je vérifie ce que j'ai écrit.
50 ans de cinéma américain, voilà.
Oui, pour essayer de corriger, de reprendre, d'ajouter, de. Voilà, il y a tout ça. Ça n'arrête pas, là, je sais pas ce que c'est, ça. Il y a la préface d'un livre que j'ai suivi, que j'ai accompagné, qui est un livre sur Autan Lara, qui va paraître dans la collection Lumière Actes Sud, sur ce personnage qui est complexe, bourré de contradictions, passionnant, très engagé, très anarche, puis à la fin, virant dans l'aigreur vers le Front National. Voilà, ben, j'ai ça, j'ai la réécriture de, en ce moment, mais c'est pas achevé, de 100 ans de cinéma américain. Vous voyez d'ailleurs des masses de...
Alors, qu'est-ce qu'on a sur votre table?
Il y a des DVD un peu de toutes sortes, des films américains. Ben oui, Dead End de Wilder que je viens de revoir, Le Loup des Mers de Michael Curtis, Les deux Batman de Christopher Nolan.
Je vois même les Gremlins 2.
Oui, je vais le revoir, parce que je suis en train de compléter la note sur John Dante. Et donc, je voudrais revoir ce film qui m'avait énormément plu. En tous les cas, dans les textes que je fais, je revois tous les films.
Vous regardez quand tous ces films ?
Le soir, quand je ne vais pas au cinéma ou au théâtre. Le matin, je fais du vélo, donc je regarde devant la télé.
Ah, et votre petit vélo d'appartement, là ?
Oui. Ben, il faut que je fasse du vélo, il faut que je fasse de l'exercice tout le temps.
En regardant un film ?
Ben, c'est une des manières de passer du temps. Donc, je regarde. En ce moment, j'étais dans Des Caprats de 1930.
Vous l'avez compris, on était il y a quelques jours chez vous, Bertrand Tavernier, à Paris, pas très loin de l'opéra, pas très loin de la Comédie Française. Une vie entièrement vouée et dédiée au cinéma que vous pratiquez, mais aussi à celui des autres. J'ai souvent l'impression que vous êtes en train de dire merci au cinéma. Vous devez être reconnaissant ou peut-être redevable de quoi ?
Peut-être de m'avoir donné envie de faire du cinéma. C'est la vision de certains films qui m'a donné envie d'être metteur en scène. Et oui, j'ai envie de dire merci aux gens qui me touchent, qui me bouleversent, qui me font progresser, qui m'ouvrent les yeux, mais pas seulement aux cinéastes. Il y a des écrivains, des musiciens, des auteurs dramatiques. Je pense que quand quelque chose vous touche, c'est bien de le dire aux personnes qui l'ont fait. C'est bien. Il y a, je crois que c'est Victor Hugo qui disait qu'il y a certaines personnes qui se dessèchent à force de non-admiration. Il disait ça dans la préface de cette admirable préface qu'il avait écrite pour William Shakespeare. Et il disait, moi j'admire comme un fou, j'admire comme un enfant. Et c'est vrai, et j'ai fait, moi, Voyage à travers le cinéma français, et la série, les 8 heures de série qui la complète, c'est un exercice de gratitude et d'admiration.
Je trouve que c'est
très... Ça fait du bien d'admirer.
Vous savez,
ça fait du bien.
Ça fait du bien, ça provoque quoi, par exemple, l'admiration ?
Je crois que ça fait du bien. Vous savez, moi, j'ai travaillé sur le long métrage, alors que j'avais eu un cancer, des voies digestives. Et pendant que j'étais à l'hôpital, je travaillais sur certains segments du long métrage. Il y a mon monteur qui venait à l'hôpital, on discutait. Je pense que cette cette passion, le fait de voir ces films, le fait d'être touché par ces films, ça m'a fait guérir plus vite, puisque la chirurgienne dit « mais vous êtes en avance d'au moins deux mois et demi sur, au niveau convalescence ». C'est incroyable.
Ah, je comprends pourquoi vous dites merci au cinéma, oui.
Ben oui, mais l'admiration, c'est quelque chose qui est bénéfique. Toujours, Victor Hugo, qui n'était pas la moitié du quart d'un imbécile quand même, qui disait, il y a quelque chose de légèrement réconfortant dans le fait d'admirer. Je pense que c'est, il le disait avec beaucoup d'humour, mais oui, moi ça me plaît d'admirer. Mmh. Ça me plaît, j'ai aussi connu des metteurs en scène, ou des écrivains, disons, qui eux ne savaient pas admirer.
Qui étaient quoi, dans une certaine amertume?
Non, qui aimaient parler d'eux, uniquement. Et au bout d'un moment, on s'ennuyait, moi je m'ennuyais toujours un peu avec eux.
Il y a un jeune homme.
Je sentais qu'il y avait, On aurait voulu que ça s'élargisse.
Oui, que ça s'ouvre un peu.
Que ça s'ouvre un petit peu.
Il y a un jeune homme, un jeune comédien en face de vous, qui travaille depuis longtemps, même s'il est jeune, c'est Raphaël Personnaz. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous remercie d'autant plus que vous allez jouer dans 2 heures à peu près au Théâtre de l'Œuvre.
Oui.
Vous n'aurez pas ma haine, Raphaël Personnaz. Et vous regardez intensément Bertrand Tavernier quand il parle là cet après-midi.
Oui, parce que on sait évidemment tous l'admiration que porte Bertrand à tous ses cinéastes, mais surtout la chose la plus importante, et moi en tant que jeune homme, quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'est qu'il arrive à transmettre cette admiration. Je pense qu'aujourd'hui, le documentaire qu'il a fait sur le cinéma français devrait être au programme, mais j'insiste vraiment, c'est pas un mot, devrait être au programme de tous les lycées.
Voyage à travers le cinéma français qu'on trouve en DVD. Hein.
Mais oui, mais c'est formidable, parce que En voyant ce film, par exemple, quand vous parlez de Gabin, quand on voit, vous parlez d'une scène dans Voici venu le temps des assassins, où il est chef, il est cuisinier à côté des Halles, etc. Et on le voit manipuler les poulets. J'ai revu le film rien que pour ça. Et c'est vrai que on s'attache à des détails comme ça.
On a l'impression que c'est son métier à Gabin.
Que c'est son métier, exactement. Donc ça donne une passion. Et pour le cinéma, et pour les acteurs, les gens qui le fabriquent, et ça nous montre surtout l'artisanat que ça représente. Donc évidemment, j'ai une admiration inconsidérée pour l'admiration justement que Bertrand porte au cinéma.
Vous avez travaillé au cinéma avec lui, Raphaël Personnaz, Bertrand Tavernier. Vous avez joué dans La Princesse de Montpensier en 2010, et puis un petit peu après, quelques années après, dans Quai d'Orsay, vous étiez ce jeune énarque porte-plume du ministère des...
Pas énarque, je sais pas pourquoi on s'obstine.
Ah, c'est vrai qu'il est pas énarque.
Ça mettait Antonin Baudry, ça l'énervait, on collait des écoles, il avait toutes les grandes écoles sauf l'ENA.
Ah oui.
Et chaque fois, les gens, par un réflexe, dès qu'ils voient une jeune personne qui a un bel, immédiatement, on accole le thème ENA.
Vous étiez plume de...
Il avait eu, je sais pas, toutes les grandes écoles, l'école des mines, Polytechnique, tout, sauf l'ENA.
Bah tiens, on va l'écouter, Raphaël Personnaz, dans ce personnage qui ne vient pas de l'ENA.
Oui.
Le ministre veut vous parler.
Bon, faites-moi voir votre marmelade.
Oui.
Ah non, vous voulez quand même pas que je lise sur ce truc, hein?
Ah non, mais j'étais en train d'intégrer vos remarques, monsieur le ministre.
Bon. Ça commençait pas comme ça. Il est où, le début?
Mais c'est plus haut.
Comment ça, plus haut? C'est pas sur l'écran.
Ah non, mais attendez, je vais...
Oui, bon, vous l'avez perdu.
Ah non.
Vous avez encore fait papier collé et ça a été avalé par votre machine.
Ah non, c'est enregistré, c'est du traitement de texte.
Oui, et ben vous savez pas vous en servir, votre bazar. Allez, allez, allez.
Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, ça vous fait rire d'entendre ça, Bertrand Tavernier. C'est votre film Quai d'Orsay.
Oui, ça me faisait rire au tournage, et je trouvais que Raphaël et Thierry ensemble, c'était...
Mais c'est un rapport de maître à valet, en fait, cette scène.
Ah oui, oui, totalement. Oui, oui c'est vrai, oui, c'était ce serviteur de l'État que je jouais, donc après le Duc d'Anjou. Donc c'était des rapports au pouvoir assez différents. L'un était celui qui avait le pouvoir et l'autre était au service d'eux.
Racontez-nous Bertrand Tavernier sur un plateau. On connaît l'homme qui fait du cinéma et qui s'exprime à la radio, mais on ne le connaît pas sur un tournage, nous.
Alors je le disais hors antenne, si vous me permettez, Bertrand, mais la première fois moi que j'ai rencontré Bertrand, c'était donc dans le Nord Aveyron, on était en train de tourner La Princesse de Montpensier, et Bertrand avait des chaussures sur ressort que lui avait donné, donc si vous m'avez bien dit ça...
Oui, l'acteur qui jouait le shérif dans La Brume électrique, il fabriquait ce genre de chaussures qui étaient formidables pour marcher sur un terrain accidenté. Ça remettait l'équilibre avec ça, et voilà.
Mais ça représente représente exactement ce que j'ai pensé. C'était bondissant. C'est-à-dire qu'il y avait une telle énergie sur le plateau que vous êtes forcément emporté. Que moi, jeune comédien, j'étais terrorisé. J'avais des scènes à cheval, etc. Enfin, il y avait pas mal de petites contraintes qui font que vous êtes un peu nerveux. C'est votre premier jour. Vous tournez avec Bertrand Tavernier. C'est quand même pas rien. Et tout vous met à l'aise. Et surtout, vous êtes dans un rapport presque passionnel. Peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, vous êtes au service d'eux, et Bertrand arrive à mettre toute une équipe au service d'eux, à créer tout le monde est enthousiaste sur ces plateaux.
Et puis vous étiez entouré de jeunes confrères et de jeunes consoeurs, ouais. Il y avait une pépinière de jeunes talents qui avaient 20-25 ans,
oui,
30 ans.
Oui, Grégoire Le Prince Ringuet, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry qui est une merveille, qui est récemment dans la douleur.
Voilà, oui.
Exceptionnel.
Vuskoj, exceptionnel. Mmh. Exceptionnel.
Non, c'est folie.
C'est une folie, puisque nous nous sommes donnés l'un à l'autre depuis toujours.
Pas donné, promis.
Tu n'as rien promis à mon frère.
Ah non, lui non, rien promis, donné, une gifle.
Donc tu ne tiens à lui d'aucune manière.
Je tiens à lui parce qu'il tient à vous, Henri. Vous ne serez jamais loin l'un de l'autre. Donc moi de vous.
Autant la préparation avait été très 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 difficile parce que on n'arrivait jamais à trouver le financement du film. C'était très dur. C'est un film qui a été fait dans la contrainte. Et après, dès que il y a eu le feu vert, ça a été un bonheur et un bonheur avec les comédiens, avec l'équipe aussi.
Là aussi, un film physique.
Oh, c'était on avait bien besoin de la cuisine avéronaise le soir, hein,
après. Vous étiez crevé.
Enfin, pas avéronaise, carladaise. On est dans le carladaise, on est dans cet endroit de France qui est encore moralement un peu la propriété de la famille de Monaco. On ne sait pas. Et on tournait, le château où on tournait était pas loin de la petite ville de Carla. Où la reine Margot a terminé ses jours. Et pendant le tournage, je me rappelle, ça avait provoqué quand même une crise de fou rire dans l'équipe. On avait vu une annonce dans la montagne que le maire de Carla voulait jumeler la ville avec celle de Bruny. Il l'a fait. Quand on est revenu, c'était jumelé avec Bruny et il a été viré par ses administrés qui ont trouvé que c'était complètement con.
Ça devrait être dans un scénario, ça,
oui,
un jour.
Formidable, ouais. Carla, quand on rentrait, Carla jumelée avec Bruni. Formidable. Il n'y a qu'au cinéma qu'on peut trouver quand on fait comme ça, qu'on tombe sur des histoires comme ça qui sont formidables, pendant qu'on est en train de faire un film sur les guerres de religion, oui. Un film où il y a des moments à la fois lyriques d'amour et puis des moments qui sont terribles.
Raphaël Personnas, Bertrand Tavernier connaît bien les comédiens, bien sûr. Il a travaillé notamment assez souvent avec Philippe Noiret. Comment il vous dirige? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup à ses comédiens, qui leur donne quelques indications ou qui ne dit rien? Il y a tout type de relation à l'acteur quand on est cinéaste.
Moi, j'ai le sentiment, et sur La Princesse de Montpensier, et sur Quai d'Orsay, que en amont du tournage, Bertrand nous fait pénétrer dans un univers qu'on ne connaît pas. Pour Quai d'Orsay, c'était particulièrement frappant. J'avais l'impression qu'il connaissait mieux que les huissiers le Quai d'Orsay. Et donc, vous êtes tellement plongé dans cet univers-là avec un nombre de détails assez important qui fait que vous immergez totalement. Après, moi, j'ai l'impression, j'ai le souvenir d'une fois, Bertrand, vous étiez venu sur la princesse et j'étais sans doute tendu, nerveux. Vous aviez juste posé votre main sur mon épaule et ça m'avait suffi. Mmh. J'avais compris. Donc non, mais c'est en permanence nous replonger dans le contexte historique, dans tout un univers qui crée avec toute l'équipe aussi. Donc j'ai pas l'impression. Tout ça est très concret en fait.
Oui,
c'est extrêmement concret.
Il faut une précision avant le tournage total. Là, Raphaël Personnas disait, tiens, si Bertrand tournait un film sur ce qu'on est en train de vivre là, à la radio, sur France Inter, il connaîtrait tous les bureaux, il aurait besoin de savoir tout ce qui se passe à côté.
Ça, c'est sûr.
Pour après être libre au tournage. Ne plus. Quand je tourne, généralement, je ne regarde pas le scénario. J'écoute s'il y a un changement. Dans un film historique, c'est plus dur de changer le dialogue. Mais quand même, s'il y a des petites modifications et que ça me paraît être bien, moi je suis pas accroché, je ne suis pas rigoriste. J'aime bien qu'on puisse même proposer des idées. Je suis toujours prêt à essayer. tout le reste. Mais avant, une grande partie du travail se fait avant, je pense. C'est déjà d'emmener les gens vers un univers, après, de leur donner suffisamment d'espace pendant le tournage, dans le cadre. Par exemple, je fais pas des centaines de plans où les gens qui bloqueraient les possibilités de mouvement. Surtout quand on a par exemple une actrice comme Mélanie Thierry ou Lambert Wilson, vous pouvez tourner des plans longs. Ils ont le temps de prendre leur rythme comme ça de la scène. Ils peuvent jouer avec eux-mêmes sans que ce rythme soit fabriqué a posteriori.
C'est par là, je crois.
Oui. Vous disiez donc qu'une femme vous a transmis.
Je n'ai pas dit cela.
C'est pas une femme.
Si.
C'était sans curiosité, vous savez. Mais maintenant, oui, je suis curieuse. Il me semble que nous sommes suffisamment amis. Cette femme que vous cachez, c'était votre femme?
Ah, voilà, j'ai trouvé. Ce sont des haches. A-C-H-E. On appelle ça aussi céleri sauvage. Alors, je les mets à bouillir.
Je n'aurais pas honte de parler d'une personne pour qui j'aurais éprouvé un sentiment.
Mais qui vous dit que...
J'ai subi l'épreuve. Et j'en suis guérie.
Mais madame, jamais je ne...
J'en suis guérie.
C'est donc que vous avez bien peu souffert.
Suffisamment souffert.
Il m'arrive souvent d'aller au théâtre, notamment pour Le Masque et la Plume de Jérôme Garcin, et je vois souvent un Bertrand Tavernier parmi les spectateurs. C'est là aussi que vous trouvez des comédiens?
Ben, j'en ai trouvé énormément. Regardez, si vous prenez Que la fête commence, j'avais trouvé toute une flopée d'acteurs et d'actrices qui, à l'époque actuelle, jouaient avec Jean-Pierre Bisson. On avait été voir Smoking, j'avais trouvé donc Nicole Garcia, Brigitte Rouen, Jean-Paul Faré, tous ces comédiens qui ne faisaient pas de cinéma. J'ai trouvé des acteurs chez Jean-Pierre Vincent, en allant absolument partout, chez Duringer au début. Chez Duringer, Xavier Duringer, je me souviens, il y avait une pièce qui avait de lui qui avait été montée à la NPE. Et là, j'avais trouvé Lara Guirao, j'avais trouvé plusieurs acteurs ou actrices qui, pour L627...
Vous avez vu Raphaël Personnaz en scène en ce moment au Théâtre
oui,
de l'Heure?
Oui, bien sûr, j'ai été très très touché. C'est un texte que je connaissais.
Vous n'aurez pas ma haine.
Mais j'avais acheté le livre.
Antoine Léris.
Oui, et j'avais été très très touché par ce récit. Et je me dis toujours, quand je me disais en le lisant, mais... Qu'est-ce que j'aurais fait si ça m'était arrivé? Surtout, ce qui est prodigieusement bouleversant, c'est que ce père a un enfant qui a 14 ou 17 mois.
Et il a perdu sa femme au Bataclan, cet homme.
Oui, hein. Il a perdu. Et l'histoire des petits pots, l'histoire des mères qui, par solidarité, qui lui font des potages, des purées, et que... Malheureusement, ses parents n'ont élevé cet enfant qu'avec de la nourriture des petits pots industriels, et que donc
il se retrouve avec.
Il aime pas la vraie nourriture.
La nourriture je trouve que des mères compatissantes.
Moi, ces scènes me.
Oui, il y a de l'humour dans cette pièce. On peut le dire
oui,
par moments.
Si. Enfin, il y a une forme d'humour, mais il y a c'est aussi bouleversant. C'est aussi des témoignages comme ça de solidarité, mais simple, concrète, mais qui sont surtout qu'elles servent à rien, puisqu'ils vident ces petits pots. Ils vident, c'est pas c'est des petits pots, c'est...
Les jettes, c'est Tupperware, carrément.
C'est Tupperware, ouais. de trucs... On se dit toujours qu'il pourrait les garder pour lui.
On vous sent extrêmement heureux, Raphaël Personnaz, de jouer ça. Alors, on peut le dire de tout acteur qui joue une pièce, mais là, vous la portez quasiment seule en scène, avec au piano Lucrèce Sacella, dans une mise en scène de Benjamin Guillard, mais ça repose sur vos épaules. En partie.
Oui, et en partie, oui, parce que je pense que le public, en effet, le fait de venir voir cette pièce n'est quand même pas un acte anodin. Tout le monde arrive chargé de l'histoire qu'il a vécue en rapport avec le Bataclan, avec ses attaques. Donc forcément, il y a une... J'ai pas l'impression d'être seul du tout. Je vois très bien les gens dans la salle et je vois l'écoute, j'entends l'écoute, je sens l'énergie se dégager du public. Donc c'est une expérience vraiment à part. Il se trouve que ce texte est malheureusement toujours d'actualité. Il se trouve que en effet, ces moments de vie que décrit Antoine Léris dont vous parliez, les petits pots, etc., sont des choses qui arrivent au moment où on ne s'y attend absolument pas, et témoignent d'une humanité de personnes qui sont autour de lui qui est absolument bouleversante et magnifique.
Vous allez partir en tournée ?
Oui, bien sûr. Oui,
vous n'aurez pas ma haine, Antoine Léris, au Théâtre de l'Œuvre à Paris, puis en tournée. C'était Raphaël Personnaz. Merci à vous.
Merci
et,
beaucoup.
Et à bientôt. Il paraît que vous avez un faible pour une chanson de Nougaro, Bertrand Tavernier, qui est Le coq et la pendule.
Ah, j'aime beaucoup.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou, qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah, mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh, ma pendule, je t'adore, ah, laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan, lui seriner sa séguedille pour imaginer son trépas. Point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin. Dans une ferme du Poitou, cocorico, un coq émet une pendule.
Le coq et la pendule, Nougaro et Maurice Vander au piano.
Maurice Vander, formidable.
Formidable, hein. C'est un scénario, oui. Ça, en fait. Hein.
Oui,
ça pourrait
oui,
se tourner.
Enfin, oui, pour les très très bons metteurs en scène d'animation que nous avons en France, oui.
Oui, c'est vrai.
Ça pourrait
faire un
court-métrage formidable.
On va parler des costumes au cinéma, si vous le voulez bien, Bertrand Tavernier. Vous en avez eu besoin régulièrement dans Que la fête commence, La fille de D'Artagnan, La vie et rien d'autre, La princesse de Montpensier. Entre autres, vous êtes très pointilleux sur les choix, j'imagine. Certains acteurs les conservent. Isabelle Huppert nous a dit qu'elle gardait la plupart des costumes chez elle. Elsa Denac nous emmène dans un lieu qui vous semblerait une malle au trésor. C'est la compagnie du costume à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. La compagnie réunit là des costumes pour le cinéma, le théâtre, la télévision, des costumes de toutes les époques et de toutes les provenances. Les habits sont très bien rangés, ils n'attendent qu'un scénario pour aller respirer l'extérieur. Elsa a suivi Loïc Benoît, responsable du développement de la compagnie, dans le hangar de la compagnie du costume à Saint-Ouen, où sont réunis les costumes des années 20 à aujourd'hui.
On est dans un grand espace de 1600 mètres carrés et il y a des étagères de chaussures là à droite sur à peu près 4 mètres de haut, des boîtes avec des maillots de corps, des collants, des accessoires en veux-tu en voilà, bien classifiés avec des codes couleurs facilement repérables, pareil sur 5 mètres de haut. Et puis devant nous, une grande profondeur de costumes mais d'accessoires sur deux étages.
Au-dessus des portants s'écrit pull, veste, soir, nuit, gilet, chemise, polo, costume, pantalon.
Et en entrant dans chaque travée, on redécortique décennie par décennie qu'est-ce qui est vraiment représentatif. Au rez-de-chaussée, ce sont les hommes. On peut tout typer en tant qu'homme au niveau costume sur le XXe siècle. Et pour une même année, on peut très bien sortir un Anglais, un Américain et un Français et les marquer différemment. Ici viennent toutes les costumières. Alors, je vais parler assez régulièrement de costumières plus que de costumiers, parce que c'est vrai que dans le métier, il y a plus de femmes que d'hommes.
Moi, je suis chef costumière ou costumière.
Lorsque les costumières ou créatrices de costumes viennent nous voir, elles ont déjà dans leur sac toute une liste de costumes dont elles ont besoin, parce qu'elles ont fait ce qu'on appelle le dépouillement. À savoir, scène par scène, combien de premiers rôles, combien de seconds rôles, combien de policiers. Ils ont déjà toute leur liste qui correspondent au scénario.
Oh, regarde, c'est très joli, ça.
Je fais mes courses, j'essaye de rassembler des costumes pour différents personnages pour une série télé qui se passe dans les années 60.
C'est pour quelle série?
C'est pour Les Petits Meurtres d'Agatha Christie.
Il y a combien de quantités d'habits ici?
Pour donner une idée, si on prend les portants que l'on voit là et qu'on les met les uns derrière les autres, on a pour plus de 2,5 km de costumes.
Pour les dames, les tissus, les rubans, les dentelles et la soie.
Ici, c'est un bon terrain de jeu. C'est vraiment notre grenier favori, enfin très très grand grenier, bien rangé.
Costume homme, années 70, du pas de def, des choses un peu flashy.
Là, on est devant les casques de CRS.
Alors là, on est dans le domaine, effectivement, le domaine militaire et celui des forces de l'ordre. On a des casques de CRS typiques 1968, mais aussi du motard années 70, 80, 90. Et puis, tous les uniformes, beaucoup de Français, évidemment.
Et d'aujourd'hui aussi?
Et d'aujourd'hui. Alors voilà, tout ce qui est uniforme actuel, on les a pour les tournages, mais il est évident que là, on ne peut pas ouvrir ça aux particuliers et qu'il faut être une production pour pouvoir...
Dommage.
Dommage. Oui, ça serait bien tenté.
Oh là là, regarde-moi ce travail. Trouve-moi quelqu'un de nos jours pour faire un ouvrage aussi délicat.
Continue un peu plus loin.
On l'oublie parfois parce qu'on ne le voit plus, mais l'habit est un acteur essentiel dans les films.
Normalement, quand un personnage apparaît avec son costume, il y a déjà plein de choses qui sont racontées.
Monseigneur d'Entrac qui... porte l'amour de la robe jusqu'à ne s'habiller qu'en femme.
Ça donne une dimension.
Avec un lieu comme ça, on peut faire l'ethnologie des habits en France. Et ailleurs, c'est vraiment une part d'histoire.
Clairement. Nous, on a vraiment conscience que l'on a un patrimoine entre les mains.
Vous montez au grenier, vous allez trouver une pile d'affaires à côté d'un coffre. Vous les descendez, soyez gentils. Hein.
Bienvenue à l'étage des femmes. Pantalon, veste, tailleur, robe...
Comme c'est rangé par couleur, on voit bien qu'en 60, le jaune était très à la mode parce que le rayon jaune dans les robes 60, il est important. En 30, on voit, il y a beaucoup de vert. En rangeant par couleur, on voit qu'il y avait des couleurs qui étaient plus à la mode que d'autres dans certaines époques. C'est assez marrant.
Même dans les nuisettes, des nuisettes à pompons avec des rouges super soutenus, des roses bonbons, du vert amande. C'est vraiment super bien. Un, pour typer un personnage, et puis deux, pour donner des tonalités de couleurs. Je parle de tableau parce que quelque part, à chaque fois, c'est une composition, et c'est pensé. Le succès d'un film, c'est vraiment le succès du travail des différentes équipes. Si chaque équipe technique a vraiment poussé, s'est vraiment arraché pour donner le meilleur, eh bien, ça donne nécessairement, de mon point de vue, un film qui est réussi.
Il faut aimer... les vêtements, mais il faut aimer surtout participer à raconter une histoire, parce que c'est quand même ça, la grande partie de notre métier, c'est qu'on aide à raconter l'histoire par le costume.
C'est le petit côté, enfin le grand côté technique qui permet d'appuyer et de donner encore plus de profondeur au personnage, à la scène et aux propos du film en général.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Les costumes, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un film. Est-ce que vous êtes aussi sourcilleux que pour le reste, Bertrand Tavernier ?
Oui, c'est très très important. Et c'est aussi important, évidemment, là, on parle beaucoup de costumes historiques, mais c'est important, mais c'est, là-dessus ça ne se remarque beaucoup moins, même dans un film contemporain.
Comme Quai d'Orsay.
Comme Quai d'Orsay, où les gens devaient avoir, il y a certains tissus qui étaient admis au Quai d'Orsay, certaines coupes, et d'autres pas. Et là-dessus, Caroline de Vivez, qui avait fait aussi les costumes de la princesse de Montpensier, a fait un travail formidable, tout à fait, et on nous expliquait qu'il y avait certaines couleurs de costumes qui n'étaient pas admises, hein, au Quai d'Orsay.
Ah oui.
Il devait avoir une uniformité de ton. Il fallait pas jurer. Donc ça, c'était difficile. Et non, les costumes, c'est une manière de... Par exemple, Philippe Noiret, qui n'aimait pas du tout qu'on psychanalyse le personnage, beaucoup du travail pour qu'il apprivoise le personnage passait par les accessoires, les costumes. Le maillot de corps de Coup de Torchon, par exemple, il voulait un maillot de corps, et il était venu me voir, il m'a dit « Je pense que ça devrait être un maillot de corps d'un rose, d'un vieux rose. » Un rose délavé. Et c'est lui qui s'était chargé de suivre toutes les opérations de teinture jusqu'à ce qu'il obtienne le rose. Et il me l'avait montré. Il me dit, voilà, ça amène... Voilà, avec ça, c'est plus... On peut supprimer une phrase de dialogue sur le personnage, il s'impose.
On a un élément.
Oui, ouais. Et en plus, il me dit, moi, ça me fait un clin d'œil pour Rio Bravo, pour Dean Martin dans Rio Bravo, que personne ne verra. Mais voilà, ça me permet de... Comme je suis très admiratif, disait Noiret, de Dean Martin dans Rio Bravo, voilà, je porte une sorte de maillot de corps qui ressemble au sien.
Monsieur le Lyonnais, Bertrand Tavernier, vous avez invité un Breton dans votre grand atelier. Bonjour Michel Lebris.
Bonjour.
Pourquoi cette invitation, Bertrand Tavernier ?
D'abord, parce que je connais Michel Lebris depuis très 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 longtemps, après la gauche prolétarienne,
il était l'un des représentants de cette gauche.
Oui, mais là, moi, j'étais pas tout à fait dans le même camp. Mais je le connais tout à fait pour ses travaux admirables sur Robert Louis Stevenson.
Bien sûr, l'écrivain écossais.
Oui, dont il a fait publier... On s'est aperçu que les romans, les traductions françaises étaient souvent complètement amputées, charcutées, etc.
L'île au trésor, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parmi les plus célèbres.
Il y en avait un qui était le plus charcuté, c'était celui que tu as fait rééditer.
J'ai fait rééditer à peu près tout. Stevenson, il y a plus de livres de Stevenson édités en français aujourd'hui qu'en anglais, puisque j'ai même publié son premier roman, Inachevé, que je me suis amusé à, comme un jeu littéraire, j'ai imaginé la fin, quoi. Ben alors là, quand tu me dis le plus charcuté...
C'est pas le trafiquant de
Ah ben là, il y a le trafiquant d'épaves, il y a un chapitre, le dernier, qu'ils ont fait sauter, oui. Ce qui est quand même embêtant, parce que ça contient toute la clé de l'histoire. Ils s'en sont pas aperçus, donc voilà. C'est assez courant pour les romans considérés comme d'aventure, étaient publiés n'importe comment. Les Mines du Roi Salomon, même aujourd'hui dans la collection Bouquin, qui n'est pas de Stevenson, mais des Reader Haggard, il manque quand même 14 chapitres.
Et pour quelle raison ? On estimait que c'était un genre mineur ?
C'était des trucs pour enfants, pensait-on, donc c'était traduit comme ça. Prenez l'île au trésor, elle n'a pas été beaucoup charcutée. Mais enfin, quand même, il y a un moment où Jim Hawkins, le gamin, il a un rêve, et il rêve Long John Silver et sa jambe de bois, et qui joue un rôle de père en même temps, de côté obscur, disons comme ça, mais qui le poursuit dans son rêve avec sa jambe de bois dressée sur le ventre. Curieusement, cette phrase du roman anglais a disparu dans les traductions françaises. Pourtant, je pense qu'elle a un sens et n'était pas écrite au hasard par Stevenson, qui était passionné par les problèmes psychiques, etc. Donc, il y a là aussi, il y avait un travail énorme de réédition critique. Une partie de ma vie, j'écoutais Bertrand, qui aurait été aussi dans mon domaine de passeur. C'est pas seulement ça, c'est Jack London, oui. L'appel de la forêt, qui, alors c'est le vrai titre, The Call of the Wild, ça n'a rien à voir avec la forêt, mais la marquise de Galard qui avait traduit le bouquin disait, je l'ai expurgé de toutes les considérations un peu brutales philosophiques. Donc la loi du gourdin et des crocs, tout un chapitre, plouf, il disparaît. Enfin, c'est ressusciter tous ces livres-là, les contrebandiers de Moonfleet, de Faulkner, etc., vous tombez sur des merveilles, mais qui ont été massacrées jadis.
Michel Lebry aime la littérature d'aventure, la littérature voyageuse, la littérature tout court, comme vous aimez le cinéma, Bertrand Tavernier.
Mais absolument, puis il a créé ce festival qui est étonnant voyageur. Mais là, moi, si je l'ai invité, c'est d'abord pour parler de ça, pour me rendre hommage à ce travail de résurrection que je trouve formidable, mais pour parler de Kong.
Son dernier livre.
Que moi, Dieu sait si j'ai une grande, grande amitié pour Michel, mais là, en lisant ce livre, j'ai été secoué, bouleversé. C'est une sorte de roman d'aventure où tous les faits sont vrais, je pense. Je vais pas. Ou en tous les cas, même s'il a peut-être émis des hypothèses, elles paraissent vraisemblables. Des deux créateurs qui ont finalement fait naître l'un des objets cinématographiques les plus mythiques, qui est King Kong. Eh bien, ces deux personnes, qui sont Marianne Cooper, aviateur, casse-cou, prisonnier des Russes dans la guerre russo-polonaise, évadé d'un camp de prisonniers, une vie prodigieuse et cheux de sac, eh bien, leur vie, déjà, c'est à peu près 12 romans d'aventure que vous les auriez mélangés, sauf que c'est les deux mêmes personnes qui l'ont vécu, qui font que Marianne Cooper va être aviateur, va être aventurier, va être explorateur, va être cinéaste, va être dirigé partiellement à un moment la RKO, va créer la Paname, va être l'associé de John Ford dans plusieurs chefs-d'œuvre. Il produit, il crée Argosy, la compagnie indépendante de Ford.
On comprend que ça vous ait pris 8 ans, Michel Lebry.
Et il crée le cinérama.
Oui.
Et il crée le cinérama.
Au moment de sa mort, il travaillait à ce qu'il pensait l'avenir du cinéma. D'une part, les séries et la télévision, et d'autre part, le cinéma en 3 dimensions, en 3D. Oui. Donc, vous voyez, c'était une vie bien remplie. Oui.
Ce livre, ça permet de parler des années 20, des années 30, au-delà même de la conception de ce film King Kong.
Oui, mais ça permet aussi de parler de pays qui vont découvrir, ça permet de parler d'un exode d'une population au nord, au sud de l'Iran.
Au sud de l'Iran.
Là, une population de 50 000 personnes, ils vont filmer cet exode où les gens, on voit dans ce film qui s'appelle Grâce, on voit des gens qui finissent par franchir une montagne pratiquement pieds nus.
Pieds nus, oui.
Pieds nus, ils marchent pieds nus dans la neige.
Ils taillent des marches dans la glace pieds nus.
Pieds nus.
Pour hisser 50 000 têtes de bétail de l'autre côté de la montagne.
Oui, et donc ils ont participé à ça. Ils ont pour la première fois, pour des Occidentaux, ils ont découvert des grands territoires qui étaient totalement inexplorés. Donc, et ces gens-là vont aboutir à Hollywood et vont concevoir deux films mythiques qui sont King Kong et Les Chasses du Comte Zaroff et qui vont être tournés en même temps, l'un le jour, l'autre la nuit.
Dans les mêmes décors.
Dans exactement les mêmes décors et avec
la même actrice.
Oui, oui, et avec certains des mêmes acteurs. tout ça est absolument mais prodigieux. Le tout supervisé par un David Oselsny qui n'est pas encore le producteur d'Autant pour le vent, qui est cocaïnomane, qui perd l'argent au jeu, qui donc arrive un matin ruiné. Et tout se fait dans l'atmosphère des années qui suivent la dépression, le crash de 29, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Est-ce que ça pourrait faire un film de Tavernier en 10 heures?
Non, c'est d'abord seuls les Américains pourraient mobiliser l'argent. Oui. À mon avis, c'est pas un film, c'est une série de 12 heures qu'il faut faire pour faire cette histoire qui est...
On vous a proposé une adaptation, Michel Lebry?
Non.
Pas encore? Bertrand Tavernier vient de lancer l'appel. Je voudrais qu'on écoute Thelonious Monk parce que le jazz est aussi une de vos passions communes. De ce grand pianiste américain, on a choisi Round Midnight.
Mmh.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Manque, ça vous fait plaisir.
Oh là là.
Je ne me trompe pas, Bertrand Tavernier.
Oh là là, écoutez, vous avez... pouvez pas me faire plus plaisir que...
Il faut dire que vous avez consacré un film au jazz.
J'ai consacré un film au jazz, presque deux, puisqu'il y avait, c'est pas du, si les racines du jazz dans Mississippi Blues. Il y avait du gospel, il y avait beaucoup de gospel et de blues. Et de blues, le blues rural, le blues que pas chanté par des vedettes, chanté par, d'abord parce que la seule vedette qu'on voulait avoir dans le film n'est jamais venue au rendez-vous et que donc ce sont ses voisins. Qu'on a enregistré et qui n'étaient pas du tout des chanteurs, qui étaient un électricien, un plombier, et qui ont improvisé le blues des Champs-Élysées. Bon, voilà, oui, une passion pour le jazz. Je pense que une des personnes qui m'a le plus apporté, c'est Duke Ellington. J'ai découvert beaucoup de choses dans le monde du Duke Ellington, et je pense que le jazz m'a apporté la liberté. Dans la création.
Michel Lebré, vous étiez le patron en 68 et 69 de la revue de Jazzotte. Alors absolument. Certes, vous étiez militant de la gauche prolétarienne, mais vous preniez le temps d'écouter du jazz et d'en parler, d'écrire sur le jazz.
Ah oui, c'est pas seulement une partie de ma vie était consacrée à ça. Tous les musiciens du free jazz américain arrivaient rue Chaptal en disant bah, « Salut, Bill Dixon nous a dit que c'est ici et qu'il fallait venir, alors on n'a pas un rond, on ne sait pas où loger, on a du matériel sous douane, mais alors là... » Et bon, ben voilà, on mobilisait tout le monde. Et puis.
Et vous étiez musicien aussi ?
Non. Mais c'était ma passion absolue, totale. C'était ma musique. Dès l'instant où j'ai entendu mon. C'était Blues in Sears, premier.
Earl Hines, Sidney Bechet.
Et Baby Dodds à la batterie, puisque c'était en hommage à la mort du frère de Baby Dodds, qui joue un truc absolument admirable. J'entends ça, j'étais gosse. J'avais pas l'électricité à la maison, c'était chez les voisins, des copains de vacances qui arrivent, qui mettent ça. Je crois que j'ai été
Béchette
foudroyé.
À la clarinette, oui, pas au saxophone.
Non, clarinette, foudroyé net. Mais si vous connaissez pas ce morceau-là, écoutez-le, vous allez voir, on tombe à genoux, quoi, c'est tout. Ça a été ma musique dans l'instant, et il fallait que j'attende chaque été que reviennent mes copains pour que je puisse écouter. Écouter leurs disques de jazz, je ne pouvais pas écouter de disques de...
Et vous, Bertrand Tavernier, le petit Lyonnais, là, né dans les années 40, oui. Il vous tombe dessus quand, le jazz ?
C'est un peu en réaction, mon père écoutait beaucoup de musique classique, un tout petit peu de jazz, donc il y avait un ou deux disques de jazz, mais c'est, je pense que je suis allé pour me différencier de lui, et c'est à 14 ans, il y avait la guilde du jazz rue de Rivoli, à ce moment-là.
C'était
donc j'ai acheté, si on achetait un électrophone Tepaz, un pick-up, on appelait ça un pick-up. Mmh. Un pick-up Tepaz. On vous donnait un disque 25 cm qui s'appelle les 10 classiques du jazz, que j'ai gardé très 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 longtemps. Après, j'ai essayé de racheter en CD les morceaux, mais il y a deux morceaux. Il y a un morceau de Jackie Garden qui s'appelle Serenade to a Shaglock que je n'ai jamais pu trouver en CD. Voilà, j'avais ça, et après, ça a été Duke Ellington. Le choc de Duke Ellington.
Un choc, vous disiez.
Le choc absolu
pour
de
vous
Duke
aussi,
Ellington.
Michel Lebré.
Le deuxième morceau, c'était East St. Louis Total Hall, chef-d'œuvre 1927, style jungle Duke Ellington. Oui. Pour moi, c'était le grondement de la mer que j'entendais chez moi dehors. Ce bruit sauvage, comme ça, sur lequel venaient
Les
musiques.
Beaucoup de choses vous ramènent à la mer, Michel Lebré. Vous dites, j'ai passé 8 ans à travailler sur le film King Kong, j'avais aussi l'impression d'être face à l'océan.
Oui. Ben oui, mais c'est de ça qu'il est toujours question. Vous savez, The Call of the Wild, cette puissance obscure au cœur du monde, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que d'abord, King Kong était un film culte pour moi. Je me suis aperçu un jour que ces deux personnes sortent de la guerre en essayant de comprendre ce qu'ils ont vécu. Comment dire ce cœur obscur du monde dans sa brutalité, sa sauvagerie, ce chaos invraisemblable qui touche au très fond de l'âme humaine. Et pour rendre compte de ça, ils vont vivre, sinon j'aurais pas écrit ce livre-là. C'est comment à travers, comme ça, tout le siècle, en l'absorbant littéralement, en courant à droite à gauche, en faisant des films, comment rendre compte de ces mystères. Et ils veulent être réalistes, parce que faire de la fiction sur la guerre, c'est pas possible. Et puis, ils font des films géniaux, et en même temps, ils disent à chaque fois, non, c'est pas ça, on a loupé. Et ils vont finir par faire la fiction absolue, qui est King Kong, pour rendre compte. Le cœur obscur du monde, c'est Kong. Sur
Et bien voilà, ce livre est la suite de cette épopée, vous la trouvez dans ce livre chez Grasset, que vous avez peut-être lu déjà, mais en tout cas, avec Bertrand Tavernier. dernier, on vous conseille absolument. Merci Michel Lebris.
Merci à vous.
On aura l'occasion de reparler du Festival Étonnant Voyageur. Dans un instant, les informations et puis tout de suite après, la suite du Grand Atelier. À nouveau dans le grand atelier de Bertrand Tavernier que l'on va ouvrir en musique, comme on accueille entre autres le cinéaste Xavier Giannoli. Bonjour monsieur Giannoli.
Bonjour.
Eh bien je vous propose d'écouter l'une des musiques de votre film L'Apparition, je suis sûr que ça va vous faire plaisir. C'est le moment où vous utilisez une musique de Georges Delerue, Stellaire, une musique qui existait avant évidemment,
absolument,
qu'il a utilisée dans un film.
C'est une musique rare mais qui avait été faite pour une série documentaire sur la 7 et à l'époque.
Tout de suite on est ailleurs. Oh, qu'elle est belle, cette musique, nous dit Bertrand Tavernier, oui. Cette musique extraite de L'Apparition, de dernier film de Giannoli.
Oui, c'est aussi beau que la musique qu'il a écrite pour Godard, pour Le Mépris.
On y pense d'ailleurs.
Oui, ça ressemble au thème de Camille.
Au thème de Camille du Mépris. Ça, c'est le l'immense talent de Delerue qui était un de ces immenses compositeurs de musique de film, comme le cinéma français en a beaucoup. Et ce que j'ai essayé de faire ressortir à la fois dans le film, dans Voyage à travers le cinéma français et dans la série, d'essayer d'insister sur les musiciens qui sont parmi je trouve, les héros les plus méconnus du cinéma français.
On a un musicien avec nous aujourd'hui, oui. Un jazzman, Louis Clavis, bonjour.
Bonjour.
Louis
bonjour.
Clavis, pourquoi je dis Louis?
Oui. Hein,
c'est étonnant. Et puis on a aussi le génie du polar, on va dire, l'encyclopédie oui. du polar, en toute modestie, ça va lui faire plaisir, d'ailleurs il rougit un petit peu, c'est François Guérif.
Et du western.
Merci d'être avec
aussi.
Nous.
Et du western. Et du western, puisque Rivage publiait également dans une collection polar des westerns, comme Ombré de Delmore Léonard.
Vous êtes pas mal entouré, bravo pour vos choix, oui. Je voudrais qu'on pose quelques questions d'abord à Xavier Giannoli. Déjà, je voudrais savoir pourquoi il est parmi la jeune génération des cinéastes, celui que vous avez invité.
Ben, j'avais que l'embarras du choix, parce qu'il y avait beaucoup de cinéastes que je trouve tout à fait passionnants. À un moment, je voulais l'auteur de Petit Paysan. Parce que c'est un film qui m'avait beaucoup touché, qui m'avait beaucoup... Puis il a été super récompensé. Oui. Lui, il a été mis en verre. Xavier, j'ai un rapport particulier. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, que je suis ses films, que je suis passionné par sa démarche. Parce qu'il me surprend à chaque film. À chaque film, il part... C'est un pari, c'est quelque chose de nouveau...
Quand j'étais chanteur, à l'origine,
oui,
Marguerite.
À l'origine, c'est un pari colossal. C'est un pari colossal et le résultat est un film que maintenant j'ai dû voir à peu près 8 fois. Et quand je l'ai revu, quand il n'y a pas si longtemps que ça...
Avec François Cluzet.
C'est un film extraordinaire, c'est un film qui parle de la France à partir des points de départ.
Oui, c'était l'histoire d'un homme qui avait construit une autoroute au milieu d'un champ, un escroc.
Oui. Oui, un escroc qui construit une autoroute. Et c'est un film qui nous parle de la France, qui nous parle d'une France qu'on voit généralement assez peu, une France qui est ignorée par les politiques. Et d'ailleurs, le portrait que donne Emmanuel De Vos donne ses personnages comme ça, publics, dans une zone désertée, oubliée, était formidable. Et Emmanuel était magnifique, Emmanuel De Vos.
Vous aviez envie de parler de cette France dont on parle peu quand vous avez eu envie de ce scénario, que vous aviez de Giannoli?
Oui, puisque d'abord, le fait divers rend modeste. Moi, quand j'ai lu ce fait divers dans un journal, c'est pour un cinéaste ou un romancier, c'est un don du ciel. Un homme escroc qui d'un coup prétend être un entrepreneur et va embarquer toute une région dans la construction d'une autoroute. Donc je suis allé enquêter sur place et j'ai essayé de comprendre pourquoi, comment ça avait été possible. Donc bien évidemment, il fallait que je m'interroge sur quelque chose de l'état de la France dans l'endroit où ça a eu lieu.
Tiens, s'interroger, voilà un mot important dans le cinéma, peut-être de Bertrand Tavernier et de Xavier Giannoli. Quand vous tournez l'apparition sur cette jeune fille qui prétend avoir vu la Vierge Marie et l'enquête qui suit, c'est aussi un verbe important. Vous vous interrogez peut-être sur ce qu'est précisément la foi, la spiritualité ou le manque de spiritualité.
Mais c'est quelque chose qui est dans l'œuvre de Bertrand aussi, qui est cette idée que le doute, ce n'est pas une limite, mais c'est le début d'une aventure. Voilà, c'est un rapport à la vie. Quand on lit le journal, quand on écoute quelqu'un vous raconter une histoire, ou quand on lit les évangiles, voilà, pour le dernier film, effectivement, on peut douter. Mais ce doute peut être un doute fécond qui vous fait vous interroger. Et c'est ça qui fait que, quand Bertrand fait ce polar génial qui est dans la brume électrique, eh bien, ce qui fait que tout ça se tient et se tend, c'est que le spectateur doute, cherche, et qu'il y a quelque chose... d'humain qui m'intéresse tout le temps, d'aller interroger une région, d'aller interroger des certitudes, d'aller mettre en question des mensonges. C'est ça qui fait qu'une aventure est belle à raconter.
Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ces propos de cinéaste, Bertrand Tavernier?
Absolument, absolument. Je pense que, et on pourrait inclure beaucoup d'autres cinéastes que je cite dans Voyage, ce sont des gens qui ont fait des films sur leurs propres doutes, sur leurs recherches, qui n'avaient pas... Quand ils commençaient leur film, ils n'avaient pas une vision totalement claire de ce qu'ils allaient dire, de ce qu'ils voulaient dire. Ils cherchaient, en travaillant, ils cherchaient. Et c'est, c'est soulage, je dis ça, c'est en trouvant qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient.
Oui.
Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Quand vous voyez certains films de Renoir, de Becker, je pense que c'est présent dans tous les films de Xavier. C'est présent alors dans le dernier, évidemment, dans l'apparition. Mais à la limite, c'est aussi présent dans un film qui, en apparence, est une comédie, une comédie un peu noire, quand même, dans Marguerite. Je trouve formidable d'avoir des zones d'incertitude dans le film. des zones d'ombre, des zones de comme ça. De...
Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un contact avec la réalité. Moi, c'est une des choses qui m'impressionne le plus dans le cinéma de Bertrand, c'est la façon dont il arrive à rendre la réalité et en même temps ce qu'il raconte, son romanesque va s'ancrer dans une réalité.
Quand il parle d'un policier, d'un instituteur, exactement. Quand il est dans le réel.
Voilà, et en même temps ça reste une histoire romanesque, ce n'est pas une banale chronique, ce n'est pas... En même temps il renouvelle ce qu'est un scénario et cette façon d'aller interroger la réalité de son époque, d'un milieu, d'une époque, ben voilà, c'est tout l'art du cinéma et de l'art en général, je pense. Un musicien, je ne sais pas, je me tourne vers vous.
Oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'idée de... on trouve ce qu'on cherche en faisant, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on se crée des paris, des obligations, on les fait. Et là, on se dit, ah oui, finalement, c'est ça que je cherchais. Mais avant de le faire, on ne sait pas.
Et moi, j'avais l'impression que Bertrand Tavernier écrivait tout, se renseignait sur tout avant, et que tout était, j'allais dire, d'une façon un peu triviale, blindé. Je me trompe.
Oui. Oui, je sais tout, mais en même temps... tu sais, il y a un truc qui est très simple, c'est que la moitié des fins de mes films n'est pas du tout la fin du scénario. C'est que ça a évolué pendant le tournage et que tout d'un coup, on part ailleurs. Ça commence aujourd'hui. La fin du scénario n'était pas du tout la fin du film.
Mais qu'est-ce qu'il a modifié ?
C'est en voyant. Alors, le tournage étant un peu spécial, on s'était arrêté pour bénéficier des saisons, on avait eu une longue interruption. Donc j'avais pu monter le film et tout ce que j'avais déjà tourné. J'avais déjà une approche précise de ce que j'avais fait. Et c'était évident que Philippe Torreton amenait un rapport organique très très fort avec les élèves de sa classe. Et que il y avait une fin qui prévoyait qu'il allait s'occuper de ce qui se passait avec ses parents, qui avaient déménagé... Tout d'un coup, moi, ce qui m'est apparu comme une révélation, la fin, elle devait avoir lieu dans la classe. Il fallait qu'on reste avec les enfants, qu'on ne parte pas sur une autre intrigue. Et ça, c'est une évidence qui s'est arrivée, qui m'a fait complètement bouleverser la fin.
Vous voulez qu'on écoute un petit peu de musique de ce film ?
Oui, oh ben oui.
Clavis, parlez-nous de cette musique.
Alors cette musique, c'est...
D'abord là, est-ce que vous voyez le film ? Est-ce que vous voyez des images du film de Tavernier ?
Oui, absolument, absolument. Notamment une scène qui se passe dans la cour de l'école, où Philippe Torreton danse avec la fanfare qui joue cette valse. Et c'est vrai que ça a été un choc pour moi de découvrir, quand j'ai composé cette valse, de la faire répéter avec la fanfare d'entrée. C'est-à-dire que Bertrand m'a dit... Pour faire cette musique de film, j'avais peur, moi, parce que je me suis dit, je vais pas être capable. Il m'a dit, il y aura pas grand chose. Mais le lendemain où j'ai dit oui, il m'a appelé en me disant, il me faut deux musiques pour la fanfare pour la semaine prochaine. Donc, Et donc, j'ai composé cette valse et je me souviens qu'on est allé avec Bertrand à une répétition de la fanfare et qu'on leur a fait jouer. C'était la première fois où il jouait cette partition. Et moi, ça m'a créé une énorme émotion de voir d'un seul coup de passer du papier à ce son de fanfare qui d'un seul coup le mettait c'est comme si une marionnette c'est comme une marionnette qui est comme ça figée, d'un seul coup un marionnettiste l'a fait bouger. Et voilà, cette musique, d'un seul coup, c'est un grand moment d'émotion pour
moi. Bertrand Tavernier dit toujours que les compositeurs sont des gens qu'il admire infiniment. Vous leur devez beaucoup, dites-vous pourquoi ?
D'abord parce que dans tous les enregistrements de musique de films ont été des moments euphoriques. Je dis toujours que les compositeurs sont les premiers critiques du film. Que si tout d'un coup vous êtes dans un studio, que vous entendez un morceau qui vous touche, qui arrive, vous vous dites... Peut-être que mon film n'est pas si mal que ça, parce que, en tous les cas, mes images ont inspiré cette musique. Je trouve qu'il n'y a pas, je dis vraiment, il n'y a pas de meilleure critique de la Talente que la musique de Maurice Jaubert.
Alors c'est beau comme idée.
Oui, le fait que Jaubert écrive ça en voyant, après avoir vu ce qu'a fait Vigo, sa musique perce à jour tout ce qui fait le génie de Vigo.
Oui,
et Jaubert est un meilleur critique du film que tous les gens qui ont écrit après sur le film.
Xavier Giannoli ?
Il y a quelque chose de l'inconscient du film. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un comme Alexandre Desplat, par exemple, sur mes trois premiers films, et j'étais très impressionné, justement, de ressentir qu'il avait peut-être vu quelque chose que je ne savais pas avoir fait. Mmh. Et je veux revenir sur Ça commence aujourd'hui, qui est un film extraordinaire. Mais revoyez-le, il doit être... on doit pouvoir le louer.
Ah oui, bien
voilà,
sûr.
C'est un film extraordinaire. La fois où je l'ai revu, il m'a bouleversé.
Un film de 99.
D'humanité, de force, de précision. Ce que fait Toretton est énorme. Son rapport avec les enfants, quelque chose du social qui est fait sans complaisance, qui est très dur, très émouvant et très digne. C'est un film essentiel. Mmh. Ça commence aujourd'hui.
Voilà. Alors, moi, je voulais dire que c'est quand j'ai amené Louis à Anzin et que je l'ai vu parler au musicien de la fanfare, il m'a épaté. La manière dont il s'est adressé à eux, en 10 minutes, il les avait dans sa poche. J'ai vu beaucoup de chefs d'orchestre, de compositeurs qui pouvaient être arrogants vis-à-vis des musiciens. J'ai même travaillé, moi, avec un compositeur génial, qui est génial, un peu fou, mais génial, Philippe Sard. La manière dont il parle aux musiciens est une horreur. Messieurs, what I am hearing, c'est de la merde, dit-il dans un mélange d'anglais.
Oui, mais ça doit aller vite. Hein. On appelle ça un service, hein, je crois. Oui. Et c'est des services de 2 heures et ils doivent aller très vite. Oui, quand on enregistre, oui, ça coûte très cher.
Et Louis arrivait là, chez des musiciens amateurs. Hein. Bien précisé, c'est des fanfares, c'est des musiciens amateurs. Et au bout d'un moment, ils étaient mais tous conquis, épatés. Il a réussi. Il avait, mais alors, un sens de la pédagogie. Ils ont adoré travailler pour ce film. Ils avaient répété comme des malades.
Louis
Clavis
a commencé sa carrière enfant comme musicien. Il joue plusieurs instruments.
Dans l'harmonie de Mon chat, mon plaisir. Nous connaissons bien tous les deux.
On vous trouvait dans les bals populaires.
Oui, non, et dans les fanfares, dans les harmonies avec le défilé le dimanche matin avec la clique et les dépôts de gerbes,
etc. On joue de toutes les musiques dans les harmonies.
Ah oui, on joue tout et puis on joue en marchant, on défile. Et moi, j'ai commencé là. Donc quand je me retrouve devant la fanfare dans un, effectivement, je retombe dans ce que...
Il disait, on est plus qu'au fanfare, on est un big band.
Oui.
Hein, on est un big band.
Ah, ça valorise.
Je suis clarinettiste, enfin, moi, je suis pas un compositeur de musique de film. Je de temps en temps, je compose pour le cinéma. Ce qui est un peu différent, ce qui fait que j'ai une position un peu particulière.
Vous avez sorti un disque récemment qui s'intitule Frontières au pluriel, sont des musiques que vous avez réalisées pour le cinéma documentaire surtout. On va écouter Fortuna par exemple.
Thank you. Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Xavier Giannoli, j'ai envie de vous demander quelle est votre relation à Bertrand Tavernier. Quand on vous voit tous les deux, on peut se dire que peut-être il y a un père spirituel et un fils spirituel, j'extrapole un peu.
Écoutez, moi, j'ai découvert quelque chose d'essentiel de Bertrand en lisant ses conversations avec les cinéastes américains. C'est d'ailleurs pas un livre de chevet, c'est un livre table de chevet, puisqu'il fait une épaisseur conséquente, oui. Il fait au moins 30 cm d'épaisseur. Oui. Et ça a été ma Bible, et c'est John Huston dans la dernière édition magnifique qui est en couverture, qui est un de mes cinéastes américains préférés. Donc il y a eu ça, et il y a eu avant tout son cinéma et des films. Je sais tout de suite, vous voyez, au moment où je pense au film, je pense à Noiret dans Les Vignes à la fin de La vie et rien d'autre. Je pense au choc qu'a été beaucoup des films que j'ai vus de Bertrand. Et puis un jour, il a fait quelque chose d'extraordinairement généreux. Voilà, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. À l'origine, sortait, le film avait été à Cannes, et puis il sortait en salle, et Bertrand a écrit un texte dans le journal du dimanche. Et c'était très étonnant. On se connaissait pas, on s'était croisés, on se connaissait un peu. Et j'étais stupéfait, puisqu'en fait, il avait tout vu du film. Et en fait, les références qu'il citait étaient les bonnes. Je me sentais un peu mis à nu, vous voyez. Et en fait, j'avais trouvé ça d'une générosité extraordinaire qu'un immense cinéaste comme lui, avec un jeune cinéaste, d'un coup prenne la plume et essaye de donner aux gens l'envie d'aller voir le film. Et beaucoup de la vie de Bertrand est faite de ça. Les géniales histoires du cinéma français en ce moment sont extraordinaires. C'est que c'est quelqu'un d'intelligent qui n'est pas un intellectuel. Et c'est quelqu'un d'une très grande générosité.
Ouais. Tous vos amis le disent, Bertrand Tavernier. Je vais me permettre de lire un petit message d'Isabelle Carré, qui tenait à vous saluer, et qui me dit « Bertrand est unique, rempli de savoir, amoureux autant de la vie que de cinéma, et en plus c'est un ami idéal. En fait, c'est Serge Danet qui parlait ainsi de Bertrand comme du meilleur des amis.
» Ah, je savais pas qu'il avait dit ça de vous, Serge
Danet. À la fin, parce que j'avais eu, Danet m'avait assassiné à peu près de tous mes films. Mais à la fin, moi je lui avais écrit quand il avait dit... il fait un texte, il dit « Je suis malade, je pense que Rivette ne s'occupera jamais de moi. » La seule personne peut-être qui accepterait c'est Tavernier. Et je lui avais écrit en disant « Vous avez besoin de quoi, Serge ?»
Serge Danet, je le précise, qui était un critique de cinéma, qui était un théoricien, un écrivain du cinéma.
Oui. Et donc on s'était rapprochés.
Pour qui vous aviez du respect, sans doute.
Non, pas dans ce qu'il écrivait sur le cinéma, pas du tout.
Mais
pas du tout.
Sur rien?
Non, je trouvais qu'il écrivait très bien, mais je trouve qu'il a écrit formidablement quand il a cessé d'écrire sur le cinéma. Quand il écrivait sur les matchs de tennis, sur les programmes de télévision, ce qu'il a écrit était formidable. Mais j'aimais pas ce qu'il écrivait sur le cinéma. Non, j'ai aimé d'autres critiques. J'aimais mieux ce qu'écrivait même Godard, Truffaut, même quand ils se trompaient, qui étaient eux précurseurs de ça, même s'ils se gouraient parfois terriblement.
Xavier Giannoli, vous, vos rapports avec la critique, quels sont-ils? Est-ce que vous supportez qu'on critique vos films ou est-ce que c'est extrêmement douloureux?
Vous connaissez l'histoire des deux critiques qui sont sur une barque, sur le lac de Tibériade? Et puis le Christ arrive au bord de l'eau et commence à marcher sur l'eau. Et il y a un critique qui dit à l'autre, t'as vu ça, le mec, c'est même pas nager.
Je voudrais qu'on écoute « Il n'y a pas d'amour heureux », Bertrand Tavernier. Il paraît qu'Aragon l'a écrit pour votre mère.
Oui, j'ai l'exemplaire original du poème qui est dédié à Geneviève Tavernier.
Mais comment se fait-il?
Mon père, enfin mes parents, ont caché Aragon pendant un an dans la maison de mon chat. Là, rue Champbeauvais, et il a écrit beaucoup de ses poèmes, et c'est pour ça que je l'avais appelé quand j'étais attaché de presse de Pierrot le Fou, et je lui avais fait une projection de Pierrot le Fou, il était venu, et avec Elsa Triolet qui m'avait dit « je vous faisais sauter sur mes genoux ». Et je lui ai dit, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'avais 2 ans, que je n'arrivais pas à me souvenir qu'Elsa Triolet. Mais j'avais écrit « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et ma mère me disait, dans les dernières années de sa vie, me disait que Elsa avait été rendue, ça l'avait rendue enragée, cette dédicace.
Elle devait être très jalouse de votre mère.
Oui, qui était très belle. Et donc, ce poème, oui, je le possède avec le...
Vous avez le manuscrit?
J'ai le manuscrit, avec qui quand même me touche. Et puis, ça me rappelle quand même que mes parents ont pris des risques à une époque.
Oui, votre père était résistant, bien sûr.
Oui, il était... Éditeur. Comme ça. Et c'est lui qui... Edith, qui était l'un des têtes de ville de Confluence, qu'on essaye vainement de faire rééditer par la région lyonnaise, par la mairie, en disant que ça fait partie de l'histoire de Lyon. Mais là, on se heurte. Les gens nous disent, on édite déjà le bulletin municipal, alors on voit s'il faut qu'on s'occupe de Confluence, qui est la grande revue lyonnaise de toutes ces années-là. S'il faut qu'on fasse en dehors du bulletin municipal ça, nous répond la mairie de Lyon, avec ce souci culturel qui les anime.
L'humour vous sauve souvent, j'ai remarqué Bertrand Tavernier.
Moi, je n'arrête pas de rire dans la vie. J'arrête pas de rire, sinon...
Il y a beaucoup de versions de ce très beau poème d'Aragon. Certains comédiens l'ont dit, l'ont enregistré,
Trintignant.
Michel Bouquet aussi l'a très bien dit. Et puis, il y a eu beaucoup d'interprétations de la chanson qui a suivi. On a choisi, nous, Michel Bouquet et Françoise Hardy dans les années 60.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étranger douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin? Qu'on retrouve au soir des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez-vous l'âme, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir. Nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui, pour tes grands yeux, tout aussitôt mourent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit nos cœurs allumés. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, il n'y a pas d'amour heureux.
Vous écoutez Le Grand Atelier de Bertrand Tavernier en direct sur France Inter. Vous chantiez ainsi que François Guéry, vous connaissez le poème par cœur.
Oui, absolument. Mais je le connais aussi parce que c'est Brassens. Merci. Brassens qui a écrit cette
bien
parole.
Sûr.
Moi, j'ai commencé à le découvrir grâce à Brassens. Voilà aussi un grand professeur de littérature, Brassens, qui nous faisait pénétrer dans l'univers de certains poètes.
François Guéry, pourquoi connaissez-vous ce poème par cœur en particulier?
Parce que c'est un poème que j'adore. La seule remarque que je ferais, c'est que Brassens avait coupé le dernier couplet. Avait coupé, oui.
Vous le connaissez par cœur, ce couplet coupé?
Oui, il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne sort flétri, et pas plus que de toi l'honneur de la patrie, il n'y a pas d'amour dont on ne sort meurtri, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux. Brassens trouvait que c'était un peu trop optimiste par rapport au texte précédent.
Ah oui, Xavier Giannoli, ce poème, ça résonne comment en vous?
Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard.
Ça vous déprime.
Un dimanche où le ciel est couvert.
L'horloger des suicides en série.
Des suicides en série après les vaccins. On va écouter un petit extrait de L'horloger de Saint-Paul, parce que ce film de Bertrand Tavernier est inspiré, adapté d'un roman de Simenon.
Monsieur Lécombe?
Oui.
Merci, vous voulez du café, de la pogne?
Non, merci.
Madame, donnez un café à monsieur. Monsieur Lécombe, on a trouvé votre camionnette abandonnée pas loin d'ici.
Je sais, je l'ai vu en venant. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils?
On verra ça tout à l'heure. Monsieur Lécombe, vous avez dîné hier soir chez Chauvin, bonne cuisine, avec des amis. En rentrant chez vous, vous avez eu la surprise de ne pas voir votre fils. Il avait filé avec mademoiselle Torigny. Vous connaissez mademoiselle Torigny?
Non, pas du tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous buvez pas votre café? Non, merci.
Ça vous rappelle quoi, cet extrait Bertrand Tavernier?
Ben, ça me rappelle la joie de travailler avec Noiret Rochefort et qu'est-ce qu'on a pu s'amuser.
C'est vrai?
Tous les deux. Oh là 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 là. Oh là là, tous les deux ensemble. En même temps, on bossait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire le film. Personne n'y croyait. J'avais arraché le tournage à Lyon à mon producteur, le seul qui avait accepté de faire le film, Raymond Danon, mais qui m'avait offert de doubler mon salaire si je ne tournais que 10 jours à Lyon et que je faisais tous les intérieurs à Paris. J'étais payé des clopinettes, hein, je veux dire. Et quand j'ai dit non, j'ai vu dans ses yeux, j'ai affaire à un fou. On ne peut pas raisonner un fou, donc je vais le laisser tranquille. Ben, voilà, et c'est comme ça que j'ai gagné mon tournage en extérieur, où on pouvait tourner beaucoup, beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus astucieux. Et puis moi, j'étais en pays de connaissance à Lyon. J'avais mes marques. Et Noiret Rochefort, c'était un régal ensemble.
C'est vrai qu'on vous envie. François Guérif, le spécialiste, je disais, l'encyclopédie du polar en France et même au-delà de nos frontières, Bertrand Tavernier, sinon... qu'on vient d'écouter, c'est cette langue-là dans L'Horloger de Saint-Paul. Est-ce que ça fait partie des premiers auteurs policiers que vous avez lus, aimés passionnément?
Oui, bien sûr. Ça me rappelle, je voudrais citer Claude Chabrol qui me disait « Tu sais, quand je suis à court de sujets, il y a la marmite Simenon, il suffit de soulever le couvercle et il y a tous les sujets du monde. » Bien évidemment, je veux dire, Simenon, c'est... C'est une mine intarissable et c'est un magnifique auteur et pas seulement, en plus, et à la fois de romans policiers, j'allais dire classiques, style Maigret, enquête et tout, et en même temps de romans noirs dans le sens le plus fort du terme.
Bertrand Tavernier, pourquoi avoir invité François Guérif, à qui l'on doit tant de polar, à qui l'on doit entre autres la découverte de James Ellroy pour nous?
Parce qu'il représente une vertu que moi je vénère, qui est la curiosité. Et qui également aussi la connaissance, le savoir, et que il m'a fait découvrir, là encore, je suis reconnaissant, il m'a fait découvrir beaucoup d'auteurs dans la collection d'Henri Vage, oui, à commencer par Ellroy, mais d'autres, des romans policiers qui se passaient, des romans noirs qui se passaient avec un policier indien. Là, vraiment, énormément d'écrivains. Et que je découvrais aussi, c'est avec lui, puis avec un peu d'autres amis, que j'ai pris conscience assez tôt que les premières éditions de Série Noire charcutaient les bouquins et coupaient des chapitres entiers. Hein.
Comme les romans d'aventure que nous citait Michel Lebris.
Il y a, vous savez... La littérature, comme ça, populaire, n'est pas bien traitée par les éditeurs. Soit on considère que ce sont des livres pour la jeunesse, et moi, c'est pour ça que j'ai eu envie de me battre pour le western, qui était traité comme étaient traités les livres d'aventure dont a parlé Lebris. Les quelques livres qui paraissaient, il y en avait quelques-uns, mais dans ces quelques livres, il y en avait plusieurs qui étaient complètement... coupé, amputé, mal traduit. Je pense à La prisonnière du désert, à des livres comme ça. C'était considéré, c'était pas une littérature. Alors que ces auteurs de western, comme les auteurs de romans noirs, écrivaient souvent dans une très belle langue.
Eh oui, qu'on c'est respectait important pas. Ce que vous dites là, Bertrand Tavernier, parce que François Guérif pourrait nous dire, et il va nous le dire, que l'histoire est très importante dans un roman noir, mais vous dites non, c'est d'abord l'écriture que je recherche, François Guérif.
Oui, absolument, je pense que celui qui l'a le mieux exprimé, c'est Jean-Patrick Manchette, qui a dit un jour...
Un de vos amis,
Oui, absolument, à propos de la position du tireur couché. Moi, il m'a dit, écoute, l'histoire, elle est la plus con du monde. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un homme qui veut quitter l'organisation, et qui, évidemment, a des tueurs lancés à ses trousses. Je voulais prouver qu'on pouvait faire un bon roman par l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas le sujet le plus important. Et ça rejoint, d'ailleurs, Dorien, les propos des gens qui ont fait la Nouvelle Vague, disent au début, c'est pas l'histoire, c'est le style, c'est l'écriture. Et moi, je dis, en effet, quand on me disait, surtout qu'il a raison, Bertrand, quand il parle de la littérature populaire, on vous dit, bon, combien de fois j'ai entendu, alors, pour faire un bon polar, il faut un détective privé, il faut un serial killer, il faut une femme fatale.
Et tout ça, c'est faux.
Et moi, je répondais toujours, il faut d'abord un écrivain, il faut une écriture.
Quand vous personnages aussi, attention.
Absolument, parce que, des personnages.
Et
oui.
Les personnages. Oui, mais les personnages priment là-dessus. Parce que quand même, le sujet est important. Et chez Dashiell Hammett, le sujet était très important. Et Dashiell Hammett était traduit de manière argotique, alors que sa langue n'était pas argotique.
La moisson rouge de Dashiell Hammett, c'est un de vos romans préférés, François Guérif?
Oui, tout à fait.
Pour quelle raison?
Je pense que c'est le plus grand roman en noir. Pour quelle raison? Écoutez, 1927, quelle est l'histoire de la moisson rouge? Des capitalistes engagent des tueurs pour briser les grévistes, mais une fois que les grévistes ont été éliminés, les tueurs restent et disent « on est dans le gâteau, on y reste ».
Bertrand Tavernier, Xavier Giannoli, Louis Clavis et François Guérif, on se retrouve juste après avoir écouté un extrait du nouveau disque qui va paraître fin mars de Barbara Carlotti.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la barre, tenir aux choses à marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent, le doute est un collier d'épines, je reste pour percer.
Les années 80, François Guérif, vous créez Rivage Noir et Rivage Thriller, et à ce titre, vous permettez, on l'évoquait son nom, de découvrir et de lire régulièrement James Ellroy. On est assez fasciné, Xavier Giannoli, je pense aussi, par cette rencontre. On sait tous que c'est un monsieur assez compliqué. On nous disait, attention, si tu interviews James Ellroy, il peut se mettre tout nu et sauter sur la table. Je me souviens, c'est un de mes souvenirs de jeune journaliste. Est-ce qu'on fantasme complètement le comportement étrange de monsieur Ellroy ou est-ce qu'il est vraiment inattendu?
Non, alors je pense qu'on fantasme parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée avec James les années où je l'ai accompagné, c'est que c'est quelqu'un, s'il a un journaliste en face de lui dont il comprend après quelques questions qu'il a lu son livre, là il peut être extrêmement libre, franc et tout, et aller très loin. Mais par contre, s'il se rend compte que c'est un interview un petit peu de commande avec des questions bateau, là en effet il peut être extrêmement agressif, il va pas sur la tasse mettre, mais
y compris, même si c'est un repas, s'en aller au milieu. Moi, la dernière fois, il a été interviewé par lui, par Frédéric Becbédé. Au milieu du repas, il s'est levé, il est parti. Et Becbédé m'a dit, je vous remercie d'avoir été là, parce que j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Donc, non, c'est quelqu'un de là-dessus de très honnête et de très franc. Si il comprend que vous avez lu son œuvre, et que vous
tout se passera bien.
Tout se passera bien.
Je le confirme, ça s'était bien passé. Bertrand Tavernier, c'est un personnage, Elroy. Il pourrait être aussi dans un film.
Oui, oh bah, bien sûr. Mais ça arrive, il y a beaucoup d'écrivains qui sont comme ça. Il y a des acteurs aussi. Tommy Lee Jones.
Que vous avez dirigé.
Que j'ai dirigé. Quand il trouvait qu'on lui posait une question qu'il considérait comme stupide, il regardait sa montre et il disait la prochaine. Voilà, donc,
c'était dans la brume électrique. Hein.
Oui, il pouvait, il était extrêmement poli. Et il essayait vraiment de répondre dès qu'il sentait qu'il avait affaire à quelqu'un qui venait pas là pour faire du cirque. Il avait fait un truc formidable quand il était sorti, je sais plus, du Grand Journal ou de l'émission, où il avait posé une question où il avait dit, mais comment se fait-il que Obama soit soutenu par des acteurs qui sont pas tellement virils comme Clooney, il nommait tous les comédiens qui sont Obama, alors que le premier candidat républicain contre Obama était soutenu par Chuck Norris, par Clint Eastwood, par tous les gens virils. Et Tommy Lee avait simplement dit, I don't want to dignify this question by answering it. Je veux pas donner de la dignité à cette question en y répondant. Et il s'est élevé, il avait quitté l'émission. voilà. Et c'est un peu ce que pourrait faire Elroy, quoi, je veux dire. Voilà. C'est...
Vous confirmez, François Guéry?
Oui, tout à fait.
Vous dites aussi que c'est important de suivre un auteur de A à Z, de ne jamais laisser tomber un auteur. Vous avez
bien sûr,
de soucis
moi, je
de
crois,
lui.
Et le problème dans l'édition aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les gens veulent faire des coups. C'est-à-dire donc il faut qu'un livre soit rentable immédiatement. Et moi, je pense au contraire que c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que vous prenez un auteur, si vous trouvez qu'il est formidable, il peut avoir des coups de mou, il peut ou du moins les livres moins se vendent. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Et je pense qu'il faut le suivre. Alors moi, je peux dire par exemple qu'on m'a dit ah, t'as découvert James Elroy, donc c'est presque mes lettres de noblesse. Sauf que j'ai découvert après que tous les éditeurs français avaient refusé James Elroy.
Qu'est-ce qui fait que vous l'avez accepté, vous?
Mais parce que moi, j'ai lu Lune sanglante, et quand j'ai lu Lune sanglante, je dois dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, je me souviens très bien, j'étais sur mon fauteuil canapé et tout, et que j'ai eu presque des sueurs froides, et je me disais, personne n'a jamais décrit de la violence comme ça.
Ah oui,
et
oui.
Pourquoi personne n'a jamais décrit de la violence comme ça? Ce que je trouvais génial chez Elroy, c'est que la violence était terrifiante, mais en même temps, il y a toujours un espèce de recul vis-à-vis de cette violence. Il y a un regard moral sur cette violence. Donc c'est pas l'exploit. Et donc personne n'en avait parlé comme ça. Et d'ailleurs, j'ai appris un jour, un ami éditeur m'a donné, communiqué une fiche de lecture d'un éditeur concurrent, je ne citerai pas, qui avait dit « ça ne marchera jamais en France car c'est trop américain ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien.
Encore un adjectif.
Voilà.
Xavier Giannoli, vous avez l'air assez fasciné par ce personnage qu'on vient de citer.
Par Elroy et puis par François Guéry. Ce qu'il a fait est énorme. La collection Rivage, c'est quelque chose d'énorme dans l'histoire de la littérature, du polar. Moi, je me souviens de la lecture de Ma part d'ombre de James Elroy, par exemple, où c'est les nuits les plus tourmentées dont je me rappelle un livre à la main. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas lu, jetez-vous sur ce livre, qui est d'ailleurs un de ses plus grands livres.
Moi, je pense, oui, c'est un de ses plus beaux livres.
Oui, ce qui est, en fait, il refait une enquête sur l'assassinat de sa mère, en fait. Et on voit le milieu où il a grandi, ce qu'il était, son rapport à la drogue, à l'obsession. Je sais pas, c'est un objet littéraire absolument étourdissant.
Est-ce que le cinéaste français que vous êtes pourrait un jour être intéressé par un roman d'Elroy et pour une adaptation, ou c'est trop loin de vous?
Je sais pas, je serais très intimidé. Hein. Vous savez, c'est James Elroy aujourd'hui. Il y a eu L.A. Confidential, je crois. Il y en a eu d'autres.
C'est le meilleur, L.A. Confidential.
Oui, il y a eu Cobb de James Harris.
Pas mal, mais pas.
Oui,
pas
non, mais qui est en plus une trahison complète du livre.
Oui, bon. Oui.
Quel rapport a-t-il au cinéma, James Elroy?
James Elroy, il adore le cinéma. Il connaît très très bien le cinéma. Il est un cinéphile complet. Oui. Nous, quand on se voit souvent, on a l'espèce de jeu. Il dit, OK, d'accord, 1947, Sterling Hayden, tel film. Et je lui dis, c'est Audrey de Tooth et tout. On est les deux seuls à faire ça, presque. Et parfois, il me dit, t'es plus fort que moi. Bon,
il est un fou, donc il adorerait avoir une adaptation au cinéma, mais c'est très compliqué, c'est trop, je pense que c'est vrai que ses livres sont un peu trop compliqués.
Et il n'écrit pas, on n'est jamais venu le voir pour lui demander d'écrire
si,
pour le
cinéma. Il a écrit des scénarios, Street ouais. Kings et tout, mais il en est jamais content.
Mais vous
il
avez chez vous un scénario inédit d'Elroy?
Non.
Ah, j'ai lu ça, c'est faux?
Oui, c'est faux, c'est une pièce de théâtre d'Howard Fast qui m'a envoyé, c'est pas un scénario d'Elroy. Elroy, ces scénarios, ils ont été portés à l'écran. J'ai pu avoir chez moi des versions de scénarios qui n'ont pas été la version finale des films, mais j'ai pas de scénario inédit d'Elroy, non.
De toute façon, c'est très compliqué d'écrire un scénario, parce que les maisons de production changent, on vous demande une nouvelle version qui est quelquefois le contraire de la précédente, et Elroy, alors il est pas du tout équipé pour ça, il peut pas se couler dans le moule. Lui, il faut le prendre tel qu'il est. Donc la plupart du temps, quand il a essayé d'écrire des scénarios, ça n'a pas marché.
Bertrand Tavernier, la dernière fiction qu'on a vue de vous, c'était il y a 5 ans, c'était Quai d'Orsay,
oui.
D'après la BD célèbre de Blin. Mmh. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Il serait temps que vous retourniez une fiction.
Vous savez, je termine à peine la série, qui était quand même un boulot, 117
voyage
semaines de montage,
le cinéma français.
De voyage à travers le cinéma français. Puis on sort à la fois euphorique, mais un peu épuisé. Oui, j'ai un sujet, je suis en train de travailler sur un sujet...
Intimiste, vous m'avez
oui,
dit.
Oui, très intimiste. D'après une nouvelle de Russell Banks, voilà, je vais essayer de le faire. Je suis pas sûr que ce soit dans l'air du temps, mais bon, ça m'amuse parce que c'est le contraire de après avoir passé maintenant 4 ans ou 4 ans et demi à explorer les tréfonds de l'histoire française, de faire une petite histoire américaine pour justement faire l'opposé. Absolument l'opposé.
Et vous le feriez en France ou
non, aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Le faire aux États-Unis, mais c'est c'est difficile. Mais c'est en même temps parce que c'est difficile que c'est excitant.
Il y aurait pas mal de femmes, je crois.
Il y a que ces deux rôles de femmes d'un certain âge qui est tout de suite dans cette période de jeunesse.
Et pourquoi ça n'est pas dans l'air du temps?
Bah, écoutez, vous voyez, je sais pas, on vit dans un moment où quand même le jeunisme triomphe partout. Quand vous dites déjà, moi, à l'époque d'Autour de minuit, le fait que j'ai un musicien de jazz âgé comme vedette, il était noir, il était âgé et il était musicien de jazz. J'ai vu après que dans les panels de notes qu'on donne pour les émissions de télé, c'était à chaque fois des notes négatives. Chacun des éléments, le fait âgé, les personnages âgés, le fait noir, ça descendait un peu plus, et vous ajoutez musicien de jazz et alcoolique, et plouf, vous arrivez alors à moins 192, là, comme je veux dire, dans les notations qui permettent de monter une œuvre.
Est-ce que ça vous démange, l'envie de tourner?
Ah ben oui, moi j'adore être sur un plateau. Je comprends, quand je faisais mon film, je comprenais. C'était une époque peut-être parfois plus facile, où les films se montaient de manière anarchique. Mais je comprenais que des metteurs en scène qui adoraient être sur un plateau finissaient par accepter un sujet qu'ils n'aimaient pas tellement, mais simplement pour se confronter à une équipe, simplement pour voir s'ils pouvaient sauver peut-être ce sujet. Voilà, je l'ai compris, ça, tout d'un coup. Je me suis dit, tout valait mieux que de ne pas travailler.
Bien, merci d'avoir été l'invité du Grand Atelier sur France Inter. Vous revenez quand vous voulez d'ailleurs dans notre émission, vous êtes vraiment le bienvenu. Je remercie aussi Xavier Giannoli
merci.
Pour l'apparition. Louis Clavis, merci à vous d'avoir été
merci.
Notre compositeur invité. Et puis François Guérif, rentrez bien chez vous dans votre maison normande. Pas ça? C'est pas la Normandie chez vous? Bon, c'est
moitié,
pas grave.
Moitié.
Allez, on lance le générique. Valérie Ayestaraï a réalisé ce grand atelier entouré de Karen Day et Perrine Malinge. Thierry Dupin s'est chargé de la programmation musicale. L'indicatif du grand atelier, on le doit à Thomas & Co.